Allez, on est mercredi et comme un mercredi sur trois, on retrouve le Tétalab générique. Bonsoir, bonsoir, déjà ça commence bien. Bonjour, bienvenue sur la chronique Le Bité et le Couteau du Tétalab. Donc il y a moi, Florent et Alex.
Bonjour.
Aujourd'hui il n'y aura pas Laurent, il nous a lâchement laissé tomber. On commence déjà avec le générique. Je me suis fait un petit peu plaisir. C'est le générique d'un jeu très ancien qui s'appelle Xenon 2 Mega Blast de 1989.
Il y a un vrai effort hein, sur cette musique, je trouve.
Ah ouais, non, mais...
Parce que du Jean-Michel Jarre. Hein.
Mais quand on jouait à ce jeu, je n'y jouais presque que pour cette intro dans le jeu. Et en fait, cette musique, pour la petite histoire, ça avait été fait par Bomb the Bass, qui était un groupe de hip-hop, et qui en fait avait récupéré la mélodie à John Carpenter, le mec qui a fait Halloween et plein de films de science-fiction et d'horreur. Et ça a été adapté par un gars qui s'appelle David Whittaker, qui avait fait aussi la musique de Speedball, de Lemmings, Golden Axe, Shadow of the Beast. Et en fait, ce jeu est super important parce que en fait, c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte que le jeu vidéo, c'était pas juste simplement un jeu, mais ça pouvait avoir une forme artistique. Il y a comment il s'appelle, Tetsuya Mizuguchi, qui en fait, quand il a vu ce jeu, il s'est dit mais la musique et le jeu ne peuvent faire qu'un, et c'est lui après qui a créé le jeu Rez, qui a été connu sur Dreamcast et qui était un jeu, avant tout c'était un jeu artistique quoi, c'était un shoot 'em up et on avait une musique derrière, et en shootant les ennemis on créait des propres samples sur la musique du jeu.
D'accord. Oui, une vraie production hein, derrière. C'est pas la petite boucle musicale de 10 secondes comme il pouvait y avoir à l'époque.
Ouais, après Mario Bros, tout ça. Bon. Après, c'était sur Amiga. Après, je dis pas sur Atari, le son était pas top, quoi. On va faire une partie actualité. On s'écoute une petite pause musicale, un petit dossier. Après, l'agenda du Tétalab et autres. Donc on commence par l'actu sur le Raspberry Pi.
Ouais, alors le Raspberry Pi, si vous n'avez pas entendu parler, c'est une plaque open hardware qui est sortie la semaine dernière, qui devait sortir la semaine dernière.
C'est un ordinateur même.
Voilà, un ordinateur. Hein. Et ça fait quelques mois maintenant que c'est attendu, avec beaucoup d'attentes, comme les premières plaques qu'ils ont sorties, les premiers ordinateurs qu'ils ont sortis, les ont numérotés de 0 à 10, c'était ça.
Ouais. Surtout l'ordinateur était annoncé à $25.
Ah oui. Donc,
et de la taille d'une carte de crédit.
Voilà, avec une sortie HDMI pour avoir une super résolution sur la télé. Et pour la taille du truc, ça fait à peu près la taille
une carte de crédit.
Ok.
Voilà, ouais. Enfin, en largeur, ouais. En épaisseur un peu plus.
Et voilà, donc ça a été annoncé la semaine dernière comme étant disponible à la vente. Je crois que c'était jeudi matin à 7h. Et en fait, deux gros distributeurs d'électronique anglais ont commencé à mettre... ils sont passés par deux gros distributeurs anglais pour vendre le Raspberry Pi. Et ce qui s'est passé, c'est que les sites sont tout de suite tombés le matin au réveil, hein, parce qu'il y avait trop de demandes sur la chose.
D'accord. Bon, enfin, tout le monde était dessus aussi, hein. Tout le monde voulait avoir sa carte, quoi.
Voilà, pour $25, c'est quand même...
Voilà, c'est pas mal. Ouais.
Et en fait, l'origine du projet, c'était en fait pour faire des ordinateurs pas chers pour les écoles, sur un but éducatif. C'est un projet un peu ouvert, mais qui n'est pas totalement open source. Donc là, c'est là un petit peu le bémol sur ce PC, quoi.
D'accord.
Ils sont aussi associés avec un fabricant de puces, Broadcom, qui. Ouais, je crois que la puce, c'est. Du coup, ils sont associés à ça, ils sortent une puce, et je pense qu'il n'y a pas toutes les spécifications sur la puce.
Ouais, après, regarder, je ne sais pas s'ils ont le droit de donner les sources de la puce, peut-être. Je ne sais pas.
Ouais. Ah oui, comme des différents constructeurs.
Voilà, et maintenant, il commence à y avoir d'autres alternatives pour ce genre de truc, vu que tout le monde a bien vu que pour 25$, c'était un peu le prix où tout le monde allait jeter dessus. Il y a d'autres alternatives qui commencent à pousser du même genre, vu que là, pour l'instant, il n'y a pas de produit qui existe. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que la mise en vente s'est pas très bien déroulée, ou alors il y a eu très peu de personnes qui ont pu avoir accès à Raspberry Pi. Et là, c'est en attente, je crois que c'est jusqu'à juin prochain maintenant.
Ouais, on a le temps.
On a le temps, ouais.
Jusqu'en juin, ils sont saturés de commandes.
Ah, ben, ça va permettre à plein de gens de faire plein d'applications. Mettons, on peut mettre un media center dessus, le coller sur sa télé et faire un lecteur de DivX, connecter sur internet, tout ça, quoi.
D'accord.
Ce que peut faire la Freebox, la nouvelle Freebox par exemple.
Après, le concurrent direct, c'est Arduino aussi. Arduino qui est une planche de prototypage rapide qu'on utilise nous au Theta Lab assez souvent pour fabriquer des petites expériences électroniques, même quand on ne s'y connaît pas en électronique. Et donc le Raspberry Pi au même prix, et là pour le même prix vous avez un ordinateur, donc c'est pas vraiment la même chose qu'un Arduino, puisque c'est beaucoup plus complexe qu'un Arduino et beaucoup plus dur à cerner totalement le sujet que les trucs très basiques sur l'Arduino, mais c'est au même prix, et je vous le dis, il y a des gens qui préfèrent avoir une machine puissante pour 25$ que
c'est sûr.
Un petit processeur 8 bits.
D'accord, donc on peut avoir pour 25$ un PC qui tourne tout à fait sur Internet.
Faut juste rajouter l'écran, le clavier, la souris.
D'accord, voilà. Mais l'unité centrale est là, quoi.
Voilà. On peut le brancher sur sa télé, donc on a déjà l'écran, tout ça.
Mais c'est normal que ça fasse un carton en même temps.
Ah, et à voir aussi après comment ça suit sur la communauté, parce que c'est des projets qui ont besoin d'une grosse communauté quand même pour retirer des bugs et des choses comme ça.
Qui est-ce qui est à l'origine en fait de ça? Du Raspberry Pi,
c'est un anglais, tu l'as écrit.
Je l'ai écrit. Ouais. Edward Upton.
Ouais, je sais pas, c'est un gars. C'est pas une boîte, quoi. C'est une initiative privée, quoi.
Ouais, ils sont mis en mode charité parce qu'ils pouvaient pas. Ils voulaient justement négocier les prix des puces.
Ouais, derrière, c'est une fondation. Ils ont construit une fondation pour supporter le projet.
Ok. D'accord.
Après, petite actu marrante. Il y a une boîte américaine qui s'appelle Boston Dynamics qui ont fait un robot il y a quelques années qui s'appelait Big Dog, qui était assez impressionnant. Et là, en fait, ils ont sorti un nouveau robot. Donc, pour voir la vidéo sur YouTube, il suffit de taper robot et cheetah, CH2ETH. Et en fait, c'est un robot. Là, ils ont battu le record du monde de course de vitesse de robot bipède. Bon, bipède, le robot est à quatre pattes et en fait, ils sont inspirés de la course du guépard. Et là, en gros, là maintenant, ils arrivent à faire courir leur robot à 28 km/h. Ils espèrent aller à 80 km/h et la vidéo est assez impressionnante et même assez effrayante. Parce qu'il faut savoir qu'un homme, il peut courir à 15 km/h. Usain Bolt, il peut courir sur 100 mètres, il le fait en moyenne à 37 km/h. Donc il faut s'imaginer Skynet, c'est la fin du monde, et on a ça derrière, on est dans la rue et on court, on a ça derrière qui nous poursuit, quoi.
Qui est plus rapide que toi.
Voilà, ouais.
Avec un design assez particulier pour les pattes, c'est des espèces de...
Ouais, de pics, c'est assez impressionnant. Oui. Déjà, ils avaient fait leur robot Big Dog, où en fait c'est un robot qui a quatre pattes, qui marche, qui est complètement autonome, et dans la vidéo il y a une personne en fait qui donne un grand coup de pied dans le chien et le chien part sur le côté mais arrive à se rattraper de lui-même sur la glace, dans la pente et tout, assez impressionnant.
Donc assez dur à exterminer
Ouais, voilà, il va nous falloir des T-1000 ou...
Et si vous voulez voir la vidéo, on a un site internet qui s'appelle canalsud.tetala.org où on vous met les liens pour suivre un peu ce qui se passe.
Ouais, voilà. On oublie toujours d'en parler, mais si vous voulez poser des questions, vous pouvez y aller dessus. Ensuite, Tu voulais parler de Free, non ? De Free Mobile ?
Il y avait quelqu'un qui voulait parler de Free, ouais. Donc, ce qui s'est passé avec Free la semaine dernière, c'était depuis la sortie de Free Mobile, il y a les autres concurrents, les autres fournisseurs historiques qui demandent à Free d'assurer qu'ils ont leur 27% de couverture réseau.
Ce qui veut dire ?
Ce qui veut dire. Vas-y.
Bon, en fait, c'était Laurent qui devait en parler parce que lui, c'est le réseau, c'est son truc. Bon, en gros, pour démarrer, Free devait couvrir 27% de la population. Pas du territoire, mais de la population. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont mis un grand coup dans tout ce qui était mobile. Tout le monde a été content et tout. Et donc, tout le monde s'est barré. Les autres opérateurs mobiles ont dit non, mais il y a un service de merde, c'est un réseau de merde. Enfin, ils sont allés en le disant comme ça. Hein. Et donc, il y a Eric Besson, tout ça, et ils ont vu que ben, le business du mobile, ça allait péricliter. Enfin, il y avait un manque à gagner. Donc, ils ont dit, ben non, votre réseau, il n'est pas à 27%. Donc, ils sont passés par l'ARCEP qui s'occupe de tout ce qui est réseau pour faire un audit. Et en gros, l'ARCEP est venu là. Ils sont assez en bisbille avec le ministère où il y a, je ne sais plus, Eric Besson. Et ils ont dit, ben non, ben en fait, il y a 27%, tout va très bien.
Ils ont tenu leurs engagements.
Voilà, il n'y a pas de problème.
Et hier, il y a eu une nouvelle agence, je ne sais plus comment c'est, l'agence pour les ondes ou un truc comme ça, qui a sorti un détail par rapport au test de l'ARCEP, comme quoi ça aurait privilégié Free Mobile.
Ouais, voilà, c'est ceux qui dépendent du ministère de communication, je crois.
C'est des grosses batailles entre lobby. Voilà.
Ouais, c'est l'ANFR qui critique l'ARCEP.
Ouais, il faut savoir que quand tous ils ont commencé, que ce soit Boeing ou SFR, leur réseau il était lamentable et personne ne leur a rien dit quoi. Voilà, ils critiquent en fait que au niveau voix Free soit correct, mais c'est au niveau ce qu'on appelle l'itinérance des données, en fait c'est l'accès à internet un peu partout, sur son mobile, ça ne soit pas au point quoi.
D'accord. Ah oui, donc ils profitent des moindres petits soucis pour, pour les couler, parce que c'est vrai qu'ils font des offres beaucoup plus intéressantes.
Et puis ils ont perdu des centaines de milliers d'abonnés d'un coup.
Ouais. D'accord. Donc encore une fois, tous les liens sur ces infos sont sur canalsud.tetalab.org.
C'est ça. Ouais. Et autre news par rapport à l'OLDSEC. Donc l'OLDSEC, c'était une branche d'Anonymous qui a fait parler pas mal d'elle l'année dernière. Ils ont eu une vague d'arrestations en juin dernier, où ils ont arrêté 6 ou 7 personnes. Et une des personnes qui n'avait pas été arrêtée, c'était Anonymous Sabou. C'est un gars qui participait beaucoup sur Twitter. Donc il n'avait pas été arrêté, mais par contre il s'était arrêté de tweeter pendant une semaine, et au bout de la fin de semaine il a recommencé depuis juin dernier. Il est beaucoup impliqué dans les affaires de l'OLDSEC et Anonymous, et en fait hier on a appris que depuis juin dernier il travaillait pour le FBI.
D'accord.
Il était incrusté dans les cercles Anonymous l'OLDSEC pour essayer de choper les gens qui restaient et qui continuent à faire des actions. Le truc bizarre aussi, c'est que l'OLDSEC a participé à la récupération des emails de Stratfor. Stratfor, c'est une agence publique ou privée d'espionnage qui récupère des informations et fait des lettres de publication par rapport à des sujets un peu diplomatiques ou géopolitiques dans le monde. Donc ils sont fait tirer tous leurs mails en décembre dernier sur un serveur, et donc l'OLDSEC a participé à ça, et du coup on peut supposer que le FBI était tout à fait au courant de ce qui se passait. Et tous ces emails sont passés sur Wikileaks il y a 2 semaines. Donc voilà, quels ont été les intérêts des uns des autres là-dedans, pourquoi le FBI a permis Wikileaks d'avoir toutes ces données-là.
D'accord, des accords entre Wikileaks et le FBI potentiel.
Voilà, c'est assez intéressant comme mélange de genre.
Ensuite, petite brève sur notre joli pays. Donc il y a un homme de 40 ans à Bordeaux qui a été placé en garde à vue parce que l'ALPA, c'est l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, a détecté que ce cher monsieur avait laissé en partage pendant 24 heures 18 films sur Emule. Donc ça y est, maintenant en France, on va en garde à vue pour 18 films sur Emule. Donc en gros, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc déjà, je sais pas comment l'ALPA a le droit de pouvoir aller voir sur les PC des gens pour savoir enfin savoir savoir ça, parce que savoir que la personne a à partager, parce que actuellement il y a Kadopi qui a ces pouvoirs là et puis après bon mettre quelqu'un en garde à vue pour 50 000 fichiers ou s'il en fait du commerce, je veux bien, mais là c'est un pauvre gars, le gars un peu poissard qui se tape une garde à vue parce qu'il a partagé 18 films sur Emule quoi. Voilà, et puis bon, la police, j'espère qu'elle a un peu autre chose à faire que, ouais, que d'agir sur ça quoi.
Mais surtout, normalement, on a deux pieds pour faire ce genre de truc. Et,
ouais, voilà.
Et là, ils sont passés
par... C'est un peu ridicule, quoi. Bah, on fait une petite coupure musicale. Alors, j'ai un petit speech. C'est Fabrice qui m'a dit de bien le dire. Alors, c'est Brett Domino. En Angleterre, ils sont deux. C'est comme en France, Didier Super, quoi. Ils sont assez sur la déconne. Et eux, en fait, ils ont comme contrainte d'utiliser du matos low cost. Donc, jouer petit synthétiseur. Et ils font beaucoup d'humour dans leurs chansons. Et ils sont même passés en Angleterre sur comment ça s'appelle, la Nouvelle Star. Et ils habillent en des chiens et tout, vachement décalé. En fait, les gars de la Nouvelle Star anglaise, ils se sont même pas aperçus que c'était une blague, quoi. Donc, ils les ont un peu cassés, quoi. Voilà, donc là, en fait, c'est une reprise de Lady Gaga, Bad Romance. Et au début de la chanson, ils nous expliquent un peu le matos qu'ils vont utiliser.
Allez, c'est parti.
Hi, I'm Brett Domino, and this is the chord monotron. It makes sounds like this. And this is the key oscillator. This makes sounds like this. And this. And also this. We're gonna play Bad Romance. Oh, 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 caught in a bad romance. And you know that I need you. I want it bad, your bad romance. I want your loving and I want your revenge. You and me could write a bad romance. Oh, oh, oh. I want your loving or your loving revenge. You and me could write a bad romance. Oh, 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 in a bad romance. Your loving and I want your revenge. You and me could write a bad romance. your bad romance.
Et voilà, sur cette magnifique chanson. Là, un petit dossier que j'ai préparé sur le fichier des gens honnêtes. Donc hier, à l'Assemblée nationale, il y a une loi que tout le monde appelle le fichier des gens honnêtes qui est passée, qui maintenant est votée. Cette loi, elle a été votée, elle est destinée à lutter contre l'usurpation d'identité. Et en fait, elle vise à afficher toute la population française par le biais en fait des nouvelles cartes d'identité qui vont disposer d'une carte à puce dessus.
Ça fait quelque temps ça déjà.
Qui a une carte à puce ?
Qui a une carte à puce dans les...
Mais là, il va y en avoir deux même. Une qui te fiche, et une autre en fait qui va te permettre de payer sur Internet ou des trucs comme ça ou truc Monéo. Enfin, j'en sais rien quoi. Bon, enfin, ce qui est grave, c'est le fichage de toute la population française quoi.
Avec données physiques et tout.
Il y aura les empreintes pour l'instant. C'est déjà ça quoi.
Bien sûr,
et
ouais.
C'est en fait le terme de fichier des gens honnêtes. Il y a des défenseurs de cette loi qui ont dit oh là là, c'est les socialistes, ils ont dit que machin. Et en fait, c'est François Pillet qui est de l'UMP, qui est rapporteur au Sénat de cette loi. Qui a en parlé de cette loi en ces termes, et il a carrément dit que c'était une bombe à retardement pour les libertés publiques. Et en gros, si on regarde l'histoire française, la dernière fois qu'il y a eu un fichier comme ça, il me semble que ça s'appelait Vichy, et il me semble que c'était pas trop des gentils. Et en fait, à la Libération, ils ont décidé de détruire ce fichier général de la population. C'est l'usurpation d'identité, c'est faire des fausses cartes d'identité, tout ça, aller à la banque, faire des faux crédits, tout ça. Et en gros, cette loi, elle n'arrêtera rien, car ça veut dire que tous les guichets de banque, tous les notaires, même tous les commerçants devront s'équiper d'un lecteur adéquat de cette carte et qui pourra communiquer avec les serveurs. Les serveurs où il y a la base de données qui recense toute la population. Donc c'est une infrastructure à mettre, c'est tout un système de sécurité, bien sûr. Et la principale dérive, c'est que pour l'instant, ça sera utilisé juste pour en cas de procédure judiciaire, mais on peut très bien penser que la police va s'en servir tous les jours, même pour arrêter un gars qui a sauté le portillon du métro. Pourquoi pas? C'est toujours le problème, hein. Ces lois-là, on passe en douce et puis après ça s'amplifie. Et comme il y a eu le fichier FNAEG, qui était à la base, qui avait été fait pour mettre les criminels sexuels, pédophiles, tout ça. Et en fait, il a été élargi à même des gens qui ont été en garde à vue, quoi, qui n'ont même pas de casier judiciaire, se retrouvent dans ce fichier-là. Si vous avez regardé France 2 ou TF1 hier, il disait qu'il y avait 212 000 cas d'usurpation d'identité par an en France. Et si on gratte un peu ces chiffres, on voit qu'en fait ils sont c'est des chiffres extrapolés, c'est pas des chiffres de gens qui portent plainte. Et d'où viennent ces chiffres? Ils viennent du CREDOC, c'est le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie. C'est un observatoire tout à fait officiel qui a été créé il y a plus de 50 ans et qui est rattaché au ministère du Commerce. On avait entendu parler d'eux parce qu'ils avaient fait une étude sponsorisée par Coca-Cola où en fait ils avaient dit mais pour la santé c'est bon aussi, il faut boire un peu de tout tant que c'est pas sans alcool, et même les sodas sont bons pour la santé, il faut en boire quoi. Enfin, tout à fait n'importe quoi.
Ils sont gentils quoi.
ouais mais attendez, Sarko est arrivé, il a dit taxe soda. Donc là tout le monde a dit ouf, ça va, l'honneur est sauf quoi. Donc, en fait, 212 000 cas d'usurpation, c'est plus que le nombre de cambriolages déclarés cette année, où il y en a eu, si j'ai les bons chiffres, 153 021. Non, c'est pas ça, Omni ?
Ah, si, peut-être.
Plus ?
Non, mais c'est les chiffres des usurpations d'identité qui me font
tiquer. Oui, c'est un chiffre extrapolé.
D'après vos études, il y en a 600.
Ouais, mais 600, je vais y venir après. Et en fait, ils ont été extrapolés à partir d'un sondage. Où en fait, on ne sait pas déjà le calcul, hein, mais on sait que ça a été extrapolé d'un sondage où en fait, sur 1000 personnes, déjà c'est pas un énorme échantillon, 4,7% ont répondu qu'ils avaient été victimes d'usurpation d'identité. Après, on ne sait pas. Peut-être quelqu'un s'est passé pour moi sur Facebook. On ne sait pas.
Ah oui,
voilà.
Ok.
Donc, et cette étude, elle a été en plus commanditée par une boîte qui s'appelle Fellows. Je sais pas comment ça se prononce. Et en fait, eux, ils vendent de la protection de données, mais en fait, surtout, ils vendent des destructeurs de documents. Donc, bon, je sais pas ce qu'ils font là. Alors, ensuite, en fait, au niveau de la réalité, alors, j'espère que j'aurai les bons chiffres, l'ONDRP, l'Observatoire National de la Délinquance et la Réponse Pénale, ils ont vu qu'il y avait le nombre de faux documents était passé de 8361 en 2005 à 6342 en 2010. Donc, une baisse du nombre de faux documents. Donc, il n'y a pas besoin de s'alarmer.
Et puis, on rappelle qu'un faux document, c'est pas forcément un passeport, hein, c'est tout et n'importe quoi.
Ouais, ouais.
Et y compris une fausse déclaration sur l'honneur.
Et 80% en fait des fraudes sont faites ce sont le fait d'étrangers qui souhaitent passer inaperçus en France, quoi. Donc, on va créer un fichier de Français qui n'ont rien à voir dans l'histoire, quoi. Et les étrangers qui sont en situation irrégulière, ils seront pas dans ce fichier.
Donc on peut se demander qui est-ce qu'on veut ficher, quoi, finalement.
Voilà, donc en fait.
Et pourquoi?
Pourquoi? Un fichier, ça marche que s'il y a tout le monde dedans.
Oui.
Voilà.
Mais on va y arriver, pourquoi de ce fichier. Donc en fait, ça serait probablement 1000 cas de personnes françaises qui seraient concernées par ce problème. Mais bon, comme les émissions de la TNT, elles aiment bien faire de l'audience, on en parle souvent, on voit souvent des vies ma vie, tellement vrai, tout ça, tout ça. Donc ça, en plus, ça ouvre la porte à la dérive. On peut penser, bientôt, on aura un système de RFID, c'est des puces sans fil, en fait, en passant dans un champ électromagnétique, la puce tire son énergie de là et va pouvoir communiquer avec l'extérieur. Mais en fait, c'est surtout que ça a été fait c'est un support pour les boîtes de sécurité françaises. Il y a le GIGSEL, qui est le groupement des industries de composants et de systèmes électroniques. Et dedans, il y a trois boîtes qui sont leaders sur les quatre mondiaux des documents électroniques d'identité. Et donc, en fait, en gros, c'est comment vendre à l'étranger une technologie, tout simplement en l'utilisant en France. Comme ça, ça fait mieux sur les offres de marché. Et donc, en France, ils avaient commencé ces boîtes à équiper 544 cantines scolaires d'accès biométrique pour habituer les gamins. Et où là où c'est complètement... C'est du n'importe quoi. Je les cite. Hein. La sécurité est très souvent vécue dans nos sociétés démocratiques comme une atteinte aux libertés individuelles. Il faut donc faire accepter par la population les technologies utilisées, et parmi celles-ci, la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles. Donc, et après, c'est encore mieux. Il propose éducation dès la maternelle. Les enfants utilisent cette technologie pour entrer dans l'école, en sortir, déjeuner à la cantine, et les parents ou leurs représentants s'identifieront pour aller chercher les enfants. Introduction dans des biens de consommation, de confort ou des jeux, téléphone portable, ordinateur, voiture, domotique, jeux vidéo. Développer les services cardless, le RFID, à la banque, au supermarché, dans les transports, pour l'accès à Internet. Et pour finir, la même approche ne peut pas être prise pour faire accepter les technologies de surveillance et de contrôle. Il faudra probablement recourir à la persuasion et à la réglementation en démontrant l'apport de ces technologies à la sérénité des populations et en minimisant la gêne occasionnée. Donc voilà, tout le monde peut dormir, tout va bien.
Ouais, bien sûr, sur côté le contrôle de déplacement des gens, voilà, c'est déjà pas mal en place.
On est en plein dans un film de science-fiction du début des années 2000, mais là on commence à y rentrer, bienvenue à Gattaca, tout ça, quoi.
C'est ça. Couplé avec l'obligation d'avoir sa carte d'identité sur soi, évidemment.
Ouais, on est un des rares pays au monde d'avoir une carte d'identité. Aux États-Unis, ils n'ont pas de carte d'identité, par exemple. Alors que niveau sécurité, eux, ils sont à fond dedans, quoi. Voilà, c'était pour le dossier sur le fichier des gens honnêtes. Donc après, c'est sur l'agenda.
Alors l'agenda, comme tous les mercredis soirs, on se retrouve au Theta Lab. Donc ce soir, à partir de 21h à Mixart Meris, il y a le Theta Lab. Où vous rentrez, vous allez au fond, il se trouve dans un conteneur. Demain, il y a 18h30, une soutenance publique des stagiaires tétaneutral.net. Donc tétaneutral qui est un fournisseur d'accès associatif à Toulouse, qui a eu des stagiaires. Et donc à Paul Sabatier, bâtiment U2, salle 213, il y a certains stagiaires qui présentent leur rapport de stage STRI, donc en réseau. Et aussi demain soir à 20h30, il y a le repas QGELT de Tout Libre. C'est un repas organisé tous les mois par Tout Libre qui aura lieu à Bois et Charbon demain à 20h. Mais je crois qu'il faut réserver sur le site de toutlibre.org. Ce week-end à Mixart Miris, il y a Occupy Toulouse, donc c'est les indignés qui viennent de Barcelone et qui vont jusqu'à Paris et qui s'arrêtent pour le week-end à Miris avec un programme assez complet en vidéo, conférences, ateliers liés aux indignés, à l'occupation. Aussi ce samedi à la Cité de l'Espace, il y a les Trophées de la Robotique. On amène, le TETALAB amène une imprimante 3D et des jeunes construisent des robots pour participer à un jeu un peu comme Egal M6 à l'époque avec les robots, mais version enfant.
C'était bien ça.
Ouais, ça a bien lancé des passions, je pense. La semaine prochaine, jeudi prochain à l'Utopia Toulouse, il y a Jérémy Zimmermann de la Quadrature du Net qui vient parler des libertés du net ou de ACTA, je sais plus. Enfin, ouais, Jérémy Zimmermann, c'est toujours un bon conférencier à aller voir. Donc, c'est entrée libre à l'Utopia Toulouse, c'est jeudi à 18h30 la semaine prochaine. Et voilà.
Très bien. Eh bien, merci à vous. Et puis, on se retrouve dans 3 semaines.
Ah, dans 3 semaines.
Pile à l'heure, les gars, bravo. Ouais. Allez, on se quitte pour le générique. On vous laisse en compagnie du programmateur de musique automatique. Et puis, à partir de 17h, eh bien, rediffusion d'une émission de Comme à la radio. À voir si les petits papiers, la caméra de Fatima est de retour ou pas. Mais en tout cas, c'est sûr, à 19h, il y aura La Bulle Coincée, le magazine consacré à la bande dessinée. Allez, on se quitte en musique. On vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de Canal Sud.